Le dictionnaire Jésus ou la méthode de Jésus pour faire comprendre ce qu'il a à nous dire. Voici la conférence du frère Renaud Silly, dominicain, docteur en théologie, collaborateur de l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Conférence enregistrée le 24 septembre 2021 à la maison diocésaine de Bayonne lors d'une soirée proposée par l'antenne de théologie des pays de l'Adour, l'ATPA. Le dictionnaire Jésus ou la méthode de Jésus pour faire comprendre ce qu'il a à nous dire, le frère Renaud Silly.
Donc, sur le dictionnaire, hein, qui est une entreprise, ma foi, importante, puisque l'école biblique de Jérusalem ne signe pas directement tant d'ouvrages que ça, donc on pourra en parler après. Du coup, je vais vous parler, au fond, ce soir, davantage de ce qui est, si j'ose dire, c'est une sorte de présentation un peu des convictions qui animent cette équipe de recherche centrée sur l'école biblique concernant ce que l'on peut dire de Jésus. Au fond, c'est l'introduction du dictionnaire part de cette question que je vais reprendre. Pour vous, qui suis-je ? Jésus pose son existence et son identité, son identité comme une énigme, c'est-à-dire quelque chose qui est un chemin d'entrée dans le mystère de Dieu. Donc de la réponse qu'on donne à cette question dépend beaucoup de choses pour nous. Vous allez voir. Donc je vais essayer de vous parler de nos convictions sur Jésus à partir d'un propos que je pourrais résumer comme suit. Comment Jésus nous dit ce qu'il veut nous dire ? Ça peut vous paraître une entrée en matière un petit peu étrange, mais en réalité, ça me semble une voie particulièrement féconde de se poser la question de qui est Jésus. Parce que ce texte, donc, est une méditation composée plusieurs décennies après le ministère de Jésus sur terre, sur cette terre, nous dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. » Puis ensuite, le Verbe s'est fait chair, parole de Dieu, est devenu homme. C'est ça que signifie ce terme. Il s'agit bien entendu d'une méditation sur Jésus, mais qui dit que Jésus a d'abord été perçu comme l'homme d'une parole sans équivalent. Vous savez que lorsqu'après des paroles dures, dans le discours sur le pain de vie, en Jean chapitre 6, un certain nombre de ses disciples s'écartent de lui, s'éloignent. Pierre dit à un moment, nous allons rester parce que à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ou alors, on a dans les synoptiques cette phrase, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et puis Jésus lui-même le dit dans saint Marc, chapitre 13, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Alors vous voyez, c'est tout à fait fascinant quand on regarde ce phénomène de près, parce que Jésus s'est fait reconnaître par la manière même d'enseigner qu'il avait, par son discours, par des paroles qui sont sans équivalent et dans lesquelles ses contemporains, les gens qui ont l'entendu, ont senti que c'était Dieu qui leur parlait à travers lui. C'est tout à fait fascinant parce que, vous voyez, Jésus appartient à un milieu plutôt simple, d'artisan. Il a reçu une formation sur laquelle on n'est pas tellement renseigné, mais qui n'est pas une formation d'abord de lettré. D'ailleurs, ça apparaît à un moment dans l'évangile de Jean. Comment sait-il tout cela alors qu'il n'a pas étudié ? Vous voyez le paradoxe. Il manifeste une culture supérieure et pourtant il n'a pas étudié. Tout nous montre que c'est quelqu'un qui a eu contact avec la parole, un contact immédiat et fécond, et pourtant il ne l'a pas appris dans les livres. Il appartient à un milieu simple. Jésus n'a pas été un soldat. Il n'a pas été prêtre, d'abord. Il n'a pas été un fondateur de civilisation. Vous voyez, en Jésus, vous n'avez ni Alexandre, qui est un immense conquérant, qui a changé la face du monde, ni Mahomet, qui est un personnage fascinant aussi à sa manière, qui a lui aussi fondé une civilisation, mais qui a été aussi un leader, un chef de guerre. Vous n'avez pas non plus quelqu'un qui ressemblerait à Napoléon, hein, un conquérant. Vous n'avez pas un philosophe comme Kant ou Platon, qui ont changé complètement le cours des idées. Jésus a eu une efficience et une influence immense, même qu'on ne peut même pas quantifier, d'une certaine manière, et qui est passé exclusivement par l'usage de sa parole. Ça, c'est quelque chose de proprement fascinant, hein, quand on y songe. C'est-à-dire une disproportion entre l'économie et la simplicité du moyen, qui est les mots, le langage, les conversations, l'écoute, le discours, sous toutes ses formes, mais l'économie de ce moyen et la disproportion des effets, hein, de cette parole qui a littéralement changé notre rapport à Dieu, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport au cosmos, notre rapport à notre prochain, à la société, à la politique. Bref, le monde a été renversé, dans une certaine mesure, au moins potentiellement, par l'effet des paroles de Jésus. Ça, c'est quelque chose de proprement fascinant, parce que, bien entendu, Jésus, du coup, n'a pas fait le mal, n'a pas élaboré de stratégie. Alors, vous voyez, là, ça me fait penser déjà à, vous savez, la première citation que l'on possède de la Bible dans la littérature païenne, enfin, la littérature profane, ça se trouve dans un traité de rhétorique d'un homme qu'on appelle le pseudo-Longin, qui a écrit un traité du sublime, et dans lequel, parmi les exemples qu'il donne dans la littérature de style sublime, il avance celui-là. Eh bien, on lit dans la Genèse, « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Et là, le pseudo-Longin le donne comme exemple de sublime, puisque, de fait, la simplicité d'un mot, c'est-à-dire une parole prononcée, « genetetophos » en grec, puisqu'il cite la Septante, c'est un grec, et la grandeur de l'effet, qui est tout simplement la chose qui nous permet de voir, hein, de discerner, de comprendre, d'illuminer l'intelligence à travers le contact du réel, eh bien, un seul mot a suffi à Dieu pour produire un si grand effet. D'une certaine manière, il y a quelque chose de ça, vous voyez, dans le prologue de Jean, on le sent. Hein. C'est que Jésus a, avec quelques mots d'une intensité absolue, changé la face du monde et le cours des choses. C'est vrai que vous ne pouvez pas trouver d'autre efficience de Jésus que celle de sa parole. Et bien sûr, ses gestes, hein, mais conformément à la tradition prophétique d'Israël, les gestes, comme le comprend d'ailleurs bien saint Jean, sont des signes. Hein. Les miracles sont des signes, c'est-à-dire que les miracles ne sont pas d'abord des prodiges, mais des faits qui appellent une action sur l'intelligence pour faire comprendre quelque chose de Dieu et de son œuvre. Du coup, c'est pour ça d'ailleurs que vous savez que saint Jean préfère le terme de signe à celui de miracle. Les faits extraordinaires sont d'abord des signes adressés à l'intelligence pour comprendre la présence, hein, de Dieu. Vous voyez, j'y tiens beaucoup, ça, parce que c'est aussi ce que dit le prologue de Jean. « Il est venu dans le monde. Jésus est chez lui dans le monde, parce que, ayant cette maîtrise de la parole, il s'identifie, et ça nous allons voir, à cette parole par laquelle Dieu a dit d'abord toute chose avant qu'elle soit. » Ça, vous voyez, c'est le rapport qui est fondamentalement hébraïque et à la réalité et qui doit être le nôtre. Le rapport à la réalité n'est pas d'abord conceptuel, n'est pas d'abord dans une opération de l'intellect, mais dans la profération d'une parole. La chose la plus primordiale quand nous cherchons l'origine des choses, c'est la profération d'un mot, d'un nom, d'une parole. Et toute chose est en fait enveloppée dans un acte de parole qu'il a dit. Donc Jésus est venu dans le monde, oui, parce que du coup, il est venu chez les siens. C'est pour ça d'ailleurs que chez Jésus, il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas d'abord élaboré des se dit qu'est-ce que j'ai comme moyen, comme fin, qu'est-ce que je peux faire. Non, il est chez lui partout où il va. Je ne sais pas si ça vous a frappé d'ailleurs. On sent que, quel que soit le lieu où Jésus se trouve, il est parfaitement à l'aise. Que ce soit avec les grands, avec les petits, avec les hommes, avec les femmes, avec les personnes vertueuses, avec les personnes de mauvaise vie. Il est toujours, en fait, semble-t-il, totalement à ce qu'il est, là où il est, parce que son rapport, justement, est celui de la conversation, du langage, de l'échange. Ce que je vais vous montrer, du coup, c'est que Jésus, comment est-ce qu'il dit ce qu'il nous dit ? Je vais vous montrer donc dans deux parties. D'une part, des critères, si je pourrais dire, externes, c'est-à-dire qu'est-ce que nous savons de la manière dont Jésus a voulu que ses paroles se transmettent ? Et d'autre part, comment nous pouvons un petit peu caractériser l'usage qu'il en fait ? Alors tout d'abord, l'Évangile atteste bien que Jésus n'a pas prononcé des paroles en l'air, mais il s'est, dans une certaine mesure, soucié que son message soit non seulement entendu, mais également assimilé, conservé. Vous voyez, je vous en cite quelques exemples, chez Marc chapitre 8, verset 17 et suivant. « N'avez-vous pas l'intelligence ? Ne comprenez-vous pas ? Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains que j'ai rompus ? Combien de pleins couffins de morceaux vous avez enlevés ?» Ils dirent 7, puis il leur dit « Ne comprenez-vous pas encore ?» Vous voyez, Jésus fait ici, nous voyons que Jésus invite ses disciples à se remémorer ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Ou alors, après le reniement, Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq ait chanté, tu auras renié 3 fois. » Ou alors au moment des annonces du matin de Pâques, « Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. » Puis au moment du signe du temple, de la purification du temple, en Jean 2, « Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévorera. » Et puis un peu plus loin, « Lorsque Jésus se réveilla d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. » Ou encore, Jean 12, « Lorsque Jésus eut été glorifié, ses disciples se souvinrent que cela était écrit. » Ou alors, ensuite, c'est en Jean 15-20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, à savoir que l'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur. Enfin, je vous ai dit cela afin que, quand viendra l'heure, vous vous souveniez que je vous les avais dites, ces paroles. » C'est un cas assez intéressant. Vous voyez, ça traverse plusieurs sources. Hein. On trouve ça chez saint Jean, chez saint Marc, dans les récits de résurrection, dans les récits de la Passion. Bref, à toutes sortes de moments différents. Ce n'est pas uniquement une parole isolée par-ci, par-là. Nous constatons que les paroles de Jésus, ses faits et gestes, étaient appelés à être transmis, à être remémorés. Ça, c'est un élément tout à fait important. C'est vrai que quand on regarde de près, les paroles de Jésus, souvent, sont présentées sous une forme qui en facilite la mémorisation. Vous voyez, par exemple, « Qui reçoit cet enfant en mon nom me reçoit ». Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Avec des mots crochets. On appelle ça des mots crochets, c'est-à-dire qu'il y a deux formules, et il y en a une qui, la suivante, commence par le début de celle qui précède. Qui vous reçoit, me reçoit. Qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette. Et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Vous voyez, ça, c'est un système de mots crochets hein, qui facilite la mémorisation. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous voyez, toujours hein, cette même technique dans laquelle on reprend au début d'une nouvelle clause. Le mot qui précède s'appelle des mots crochets. Ou alors, les parallélismes antithétiques. À celui qui a, il sera donné. Et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Ma chair est vraiment nourriture et mon sang est vraiment boisson. Ton frère était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. « Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. » Vous voyez ce style. Alors, en plus, quand on fait la rétroversion vers l'araméen en particulier, on peut arriver parfois à des assonances assez extraordinaires, parce qu'avec des mots qui se répondent, selon les mêmes, avec des jeux de mots extraordinaires, enfin voilà. C'est précisément dans ce type de formule, hein, voyez, celles qui sont le plus mnémotechniques, que la rétroversion vers l'araméen donne le plus de résultats pour manifester des formules qui sont frappées et avec presque un cliquetis de consonnes qui se répondent les unes aux autres. Hein, qui font à tel point que donc, un exégète anglais avait écrit un livre qui s'appelait « The Poetry of Our Lord », la poésie de notre Seigneur. Hein. et en la caractérisant, c'était tout à fait intéressant. Donc c'est vrai que c'est, l'enseignement du Christ, il est fait pour être mémorisé, c'est assez visible. Alors, pour caractériser le type d'enseignement oral que Jésus a pratiqué, on a fait appel, vous voyez, à de la sociologie sur la mémoire sociale, comment fonctionne la mémoire dans un groupe humain. Parce que, vous savez, on a proposé plusieurs modèles. On a essayé de se demander si la transmission des paroles de Jésus n'était pas assimilable à celle qu'il peut y avoir dans les milieux populaires de transmission des contes, comme les contes de fées. Là, en particulier, on s'est inspiré de théories de ce qu'on appelle les formalistes russes, Bakhtine ou des gens comme ça. Vous voyez comment se transmet, par exemple, Pierre et le loup, ou le petit chaperon rouge, ou le petit pousset. Ces contes-là, quelle est la manière dont ces récits, qui commencent souvent par « il était une fois », se transmettent oralement. C'est un modèle qui ne convient pas, si vous voulez, parce que le contenu des récits des évangiles n'est pas le type des contes de fées. Et par ailleurs, il y a aussi une très grande différence, c'est que les contes de fées, c'est une transmission qui est populaire, anonyme et de personne à personne, dans des groupes d'individu à individu, si vous voulez. Alors que la transmission des paroles de Jésus, elle est nommée, c'est-à-dire que normalement on cite les témoins habituellement, et elle ne se fait pas de personne à personne, puisqu'il y a eu en fait très très peu d'intermédiaires entre le moment où Jésus a prononcé ses paroles et où elles ont été mises par écrit. Bon, il y a tout un processus qui est complexe, l'histoire de la tradition synoptique, mais en fait, il n'y a pas beaucoup, si vous voyez, il n'y a pas une longue chaîne de témoins qui se seraient transmis anonymement ces récits avant que ça soit mis par écrit. Ça a été, et quand elles ont été mises par écrit, c'était sur le témoignage de telle ou telle personne, d'où le fait que, vous savez, par exemple, dans Luc 8, on dit des gens les accompagnaient depuis la Galilée, en particulier Marie de Magdala, Jeanne, femme de Cusa, intendant d'Hérode, et Suzanne, parce que le nom qui apparaît de ces femmes-là, à ce moment-là, c'est une façon d'authentifier les témoins de la tradition que Luc colporte. Oui, ça c'est bon, un élément important. À quoi ressemble donc la transmission des paroles de Jésus ? On a aussi essayé de se demander, ça c'est un chercheur suédois qui s'appelle Birger Gerhardsson, qui a constaté qu'au IIe siècle après Jésus-Christ, un rabbin, un des fondateurs en fait, du judaïsme post-biblique classique, qui s'appelle Judas le Prince, a publié un traité juridique qui s'appelle la Mishnah. Il l'a publié par oral. Une publication orale, ça peut nous paraître un peu étrange. En quoi ça consiste ? Ben, en fait, il a pris ses élèves pendant 15 jours, 3 semaines, et il leur a fait répéter la jurisprudence qu'il voulait leur transmettre, de façon à ce que la transmission se fasse verbatim, vous voyez, pratiquement, en fait, comme un texte écrit. Et Gerhardsson se disait, peut-être que justement, comme on attribuait une très grande valeur aux paroles de Jésus, est-ce que c'est pas justement qu'elles auraient été transmises comme ça ? Donc, les évangiles nous donneraient les ipsissima verba, les mots même du Christ que Jésus aurait enseigné à ses disciples, selon ce modèle-là, qui est donc attesté dans le judaïsme. Ce qui est intéressant, vous voyez, puisque c'est un parallèle juif, qui est certes postérieur d'un siècle à Jésus, mais qui est juif quand même. Après, en fait, ce modèle-là ne convient pas non plus, parce que le contenu des évangiles ne correspond pas non plus à des décrets ou de la casuistique ou de la jurisprudence juridique, dans lequel la précision la plus littérale est requise pour que les textes aient force de loi. Vous avez bien vu comment les juristes interprètent les textes avec une précision extrême. Et donc, ici, une transmission verbatim est nécessaire. Or, ce n'est pas le cas des paroles de Jésus, qui ne fonctionnent pas comme une espèce de norme juridique. Alors, à quoi peut-on rapporter la transmission des paroles de Jésus ? On a la sociologie parle de, pour la Mishnah, de Judas le Prince, d'une tradition orale formellement contrôlée. Ça veut dire qu'elle est formellement, c'est-à-dire que c'est les mots mêmes qui sont transmis, et contrôlée parce qu'il y a une autorité qui veille à la bonne transmission. Vous avez d'un côté la littéralité du texte, et de l'autre l'autorité qui garantit que cette littéralité est conforme à la norme. C'est ce qu'on appelle là une tradition orale formellement contrôlée. Et vous avez aussi une tradition orale qui serait informelle et non contrôlée. Ça, par exemple, c'est comme ça que circulent les anecdotes dans un village palestinien classique, informel, puisque on ne contrôle pas la formulation des mots, et elle n'est pas contrôlée parce qu'il n'y a pas d'instance qui régule. C'est en fait la communauté elle-même qui se réjouit des anecdotes, des contes, des petites histoires, de la vie quotidienne que l'on se raconte le soir au coin du feu ou des choses comme ça. En fait, les évangiles relèvent d'un statut intermédiaire entre les deux. C'est une tradition qui est informelle, mais contrôlée. Au sens où, informel, puisque les mots ont des variations, mais contrôlé parce que, de fait, il y a toujours eu une autorité qui se sentait et qui se savait dépositaire du contenu de ce message. Et ça, du coup, c'est ce qui ensuite a donné nos évangiles, bien sûr, et le fait que les évangiles aient irrigué la vie de l'Église. Et qu'à un moment, quand des évangiles nés en dehors de ce contexte sont apparus, eh bien, ils ont été exclus comme apocryphes, parce qu'ils ne rentraient pas, en quelque sorte, dans le dépôt continu dont on pouvait remonter la source jusqu'à Jésus, si vous voulez. Et c'est vrai que, si vous regardez dans les évangiles, vous constatez que c'est bien visible. Par exemple, je prends l'exemple de la guérison du fils du centurion, qui est raconté chez Matthieu au chapitre 8 et Luc au chapitre 7. Tous les deux préservent le récit de la guérison à distance du fils malade d'un centurion qui habite Capharnaüm. L'échange verbal de Jésus avec le centurion est pratiquement identique dans les deux versions. Et là, je vous le cite. « Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Je suis un homme d'autorité avec des soldats sous mes ordres. Quand Jésus l'entendit, il fut surpris et dit « Jamais je n'ai trouvé une telle foi en Israël. » En revanche, tous les détails qui précèdent et suivent ces paroles divergent fortement. Donc vous voyez, vous avez des détails qui sont mis en contexte, qui n'est pas du tout la même. Mais en revanche, l'essentiel du miracle et de l'échange de Jésus avec cet homme, lui est... préservé de manière, là, pour le coup, verbatim, mot à mot, en quelque sorte. Matthieu a, par exemple, inséré à cet endroit-là une parole de Jésus sur le festin eschatologique avec Abraham, auquel participeront les nations. Et vous voyez, c'est attiré de fait parce que c'était un centurion romain qui était là. Et donc, Matthieu s'est dit, c'est un bon endroit pour mettre cette parole-là, que je ne sais pas très bien où caser, autrement. Et donc, on la met ici. Il a sans doute des meilleures raisons que ça. Voilà. Mais en tout cas, elle est à cet endroit-là. Luc nous dit que cet homme, en fait, c'est un bienfaiteur de la synagogue. Il a même payé la synagogue dans le village du coin. Luc, en fait, n'appelle pas le miraculé le fils du centurion, mais un esclave. Il y a des petits détails comme ça qui varient, qui font que la mise en contexte est assez différente. Mais en revanche, précision verbatim quant à l'échange des mots. Jean, par ailleurs, possède sa propre version de l'épisode, qui est très différente. Guérison du fils d'un fonctionnaire royal, au chapitre 4. La scène, cette fois, se déroule à Cana, tandis que le fils malade se trouve à Capharnaüm, comme chez les synoptiques. Le centurion est devenu un fonctionnaire royal. Le superbe dialogue central a disparu, mais la guérison à distance est bien là, ainsi que l'insistance sur la foi de cet homme. C'est l'élément crucial qui compte pour la tradition johannique. On voit bien ici, vous voyez, que les traditions ont abandonné certains détails qui ne les concernaient pas et en revanche ont gardé l'essentiel des choses. Par exemple, Matthieu et Luc insistent beaucoup sur le fait que le centurion est un étranger. Parce que, comme leurs évangiles s'adressent à des publics où il y a déjà beaucoup de chrétiens venus des nations, c'est vrai que c'est un détail extrêmement intéressant à préserver et à mettre en valeur. Jean, qui lui s'adresse à un public qui est quand même assez nettement juif, le fait que ce soit un étranger, ça ne les intéresse pas beaucoup. Vous voyez, ce détail-là, il a été perdu dans la tradition johannique, mais préservé ailleurs. Donc, autant vous dire qu'avec un texte comme celui-là, qui peut-être, ce n'est pas absolument impossible que l'échange ait eu lieu en grec, pourquoi pas, on est au plus proche des ipsissima verba des protagonistes, avec ces éléments centraux qui passent partout. Le récit de la tempête apaisée, aussi, est tout à fait semblable, puisqu'il y a beaucoup de choses qui changent. Chez Matthieu, les vagues entrent dans le bateau. Chez Marc, elles battent ses flancs. Chez Luc, le bateau se remplit. Bon. Mais en revanche, le point central, celui qui est l'objet même de la tradition, il est parfaitement préservé. Ils le réveillèrent, disant « Nous périssons ». Il se réveilla et menaça le vent et la mer. Il se fit un calme plat. « Qui est-il pour que les vents et la mer lui obéissent ?» Voilà. Donc, vous voyez une espèce de critère externe que je vous ai montré, qui témoigne, si vous voulez, ce souci de préserver dans l'Église les paroles même du Seigneur, est tout à fait cohérent avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur la nécessité de se rappeler ce qu'il avait dit, avec la forte impression que ces paroles ont produite sur ses contemporains, et surtout avec la conviction par laquelle j'ai commencé mon exposé, que Jésus a été efficace par sa parole. Mais en même temps, avec une grande souplesse, une grande liberté. D'une certaine manière, cette parole de Jésus qui a marqué, c'est aussi une parole assez informelle, au fond, de conversation avec des personnes, des groupes, avec les paraboles, etc. Donc, un état important pour nous, donc ce sentiment que Jésus, c'est d'abord dans la manière dont il parle et dont il s'adresse à nous que nous pouvons savoir qui il est. Alors, je viens maintenant à une autre caractéristique, maintenant des caractéristiques vraiment du langage même du Seigneur. Comment il nous dit ce qu'il a à nous dire. Nous constatons une chose qui est un point quasiment récurrent chez Jésus, c'est que quand on lui pose une question, il répond par une autre question. Alors, je vous en donne quelques exemples. Ça, là, vous voyez, on est exactement dans ce que disait ce sentiment qui apparaît donc dans l'Évangile selon Jean. Comment sait-il les lettres alors qu'il n'a pas étudié? Parce que cette manière de faire, de répondre à une question par une autre question, c'est le côté dialogal, dialectique de l'enseignement juif qui est ici à l'œuvre. Et vous allez voir pourquoi elles sont importantes, ces questions auxquelles Jésus répond par des questions. Je vous en donner trois ou quatre. Alors, Luc chapitre 10, verset 25. « Voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Il lui dit, « Dans la loi, qu'y a-t-il écrit ? Que lis-tu » Première chose, là, vous voyez, on lui pose une question, il répond par une autre question. Ou alors, la parabole qui suit, la célèbre parabole du bon samaritain, « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Et Jésus raconte la parabole du bon samaritain, et ensuite il termine par « Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands ?»« Qui est mon prochain ?» Il lui répond « Qui est-ce qui s'est fait le prochain de l'autre ?» Marc 11, 28, que j'ai également noté. Il lui disait « Par quelle autorité fais-tu cela ? Qui t'a donné cette autorité pour le faire ?» Jésus leur dit « Je vous poserai une seule question. » « Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. » Alors il se disait, « Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. » Or, il se faisait par devers eux son raisonnement, « Si nous disons du ciel, etc. » Voilà. Ils font à Jésus cette réponse, « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. » Et puis enfin, l'autre point fort intéressant, ça y revient, mais c'est à peu près la même chose. Vous voyez, au moment où Jésus, la tempête apaisée, les gens se disent « Qui est-il, celui-là, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Ou alors, Hérode se demande à un moment « Qui est-il, celui-là ? Est-il Jean-Baptiste qui est ressuscité des morts ?» Rappelez-vous, saint Paul, qui, sur le chemin de Damas, devant l'apparition, dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et puis, du coup, dans le texte que nous avons eu aujourd'hui à la lecture à la messe, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, Jésus répond à toutes ces questions par « Pour vous, qui suis-je ?» Bref, ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait surprenant. Tous, ils disent « Qui est-il, celui-là, pour que le vent et la mer lui obéissent ?» Qui est-il, ce Jésus? Est-ce que c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité? Paul se demande, qui est-il? Même Jean-Baptiste, dans la prison, es-tu celui que nous attendons ou devons-nous en attendre un autre? Et vous voyez que c'est très frappant de constater que Jésus a répondu à toutes ces questions sur qui il était en leur disant « Mais pour vous, qui suis-je ?» Et en fait, c'est parfaitement cohérent avec les autres occurrences. Il répond à une question embarrassante par une autre question. Et c'est vrai que si vous y regardez de près, vous constatez que ces questions auxquelles il répond par une question identique mettent toutes en jeu son identité à lui. Par exemple, dans la parabole du bon samaritain, « Qui est mon prochain ?» Jésus raconte la parabole et ensuite il dit « À ton avis, qui s'est fait le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands ?» Il ne répond pas en disant « Qui est mon prochain ?» Il lui répond « Qui s'est fait le prochain ?» D'accord ? C'est tout à fait intéressant comme déplacement. Au fond, vous voyez le pharisien là, ou le légiste dont il est question à ce moment-là, se demande bah, au fond, envers qui suis-je tenu d'observer les commandements ? Et donc, c'est un raisonnement juridique, si vous voulez. La loi, qui me demande d'aimer mon prochain comme moi-même, à qui s'applique-t-elle, en quelque sorte ? Parce que peut-être qu'elle s'applique peut-être pas à quelqu'un qui habite à 10 000 km de chez moi, hein, et avec qui je n'aurai jamais aucune espèce de relation. Donc, qui est le prochain qui est effectivement concerné, vis-à-vis duquel je suis effectivement tenu d'observer le commandement d'amour ? Ça, c'est une question pratique, si vous voulez. Et Jésus répond « Qui s'est fait le prochain ?» C'est-à-dire « Qui a décidé d'être le prochain de celui qui était dans la peine et dans le besoin ?» Et évidemment, qui est-ce qui s'est fait le prochain par excellence ? Sinon, Jésus lui-même. Ou alors, la question que vous aviez tout à l'heure, « Par quelle autorité fais-tu cela ? Qui t'a donné cette autorité pour le faire ?» Mais moi, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Parce que de fait, il pose une question en miroir, en quelque sorte. C'est vrai que la question de l'autorité avec laquelle Jésus agit pose la question, en effet, de son identité directement. Est-il l'homme, enfin, celui qui a été accrédité par Dieu hein, pour avoir autorité sur les Écritures, sur leur accomplissement, sur l'avenir eschatologique d'Israël, etc. Et puis enfin, la question qui nous a intéressés au début... cette question pardon, que nous venons de voir, on se demande qui il est, et lui, il répond « Qui suis-je pour vous ? Qui suis-je au dire des foules ?» C'est une question absolument fascinante, sur laquelle on va s'attarder un petit peu. Pourquoi ? Parce que vous sentez bien que dans cette question, quand les gens se la posent, c'est bien qu'ils sont perplexes. Ils voient une puissance à l'œuvre en Jésus, qui est peut-être d'origine divine, qu'est-ce qu'ils peuvent en... Enfin, du coup, ça leur met la puce à l'oreille. Ça les plonge dans la perplexité. Et Jésus recueille cette question sur les lèvres de ceux qui la lui posent, et c'est lui qui la pose. Pour vous, qui suis-je ? Ou qui suis-je au dire des foules ? Donc, si Jésus le fait, d'une certaine manière, Jésus transforme la perplexité en mystère. C'est tout à fait déterminant, ça. De ce qui était une interrogation à laquelle on ne sait pas répondre, Jésus s'en empare pour en faire une énigme, mais du coup, lui aussi va s'engager, en quelque sorte, sur le chemin pour y répondre. Vous voyez ? Là, nous passons de l'inquiétante question au dévoilement progressif du mystère, réalité cachée depuis les origines, mais dans laquelle Dieu va dévoiler ses secrets. C'est ça le mystère, vous voyez ? Tout à fait. Par le fait même que Jésus recueille des paroles d'homme sur ses lèvres à lui, il en transforme la portée. Les mots humains, quand ils ont été ressaisis par Jésus, ne veulent plus dire la même chose. Ils deviennent, en quelque sorte, des réalités mystérieuses qui nous mettent sur le chemin pour découvrir les profondeurs même de Dieu. Alors, ce passage, donc, c'est Luc chapitre 9. Je vais vous en donner toujours une petite explication parce que c'est fascinant. Alors, qui suis-je au dire des foules ? Ils répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des anciens prophètes est ressuscité. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Mais lui leur enjoignit et prescrivit de ne le dire à personne. Le Fils de l'homme, dit-il, doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué le troisième jour, ressuscité. Alors, c'est un épisode absolument crucial pour notre propos, parce que, vous voyez, les réponses que donne la foule, hein, le résultat de ce petit sondage, si j'ose dire, hein, qui est fait au milieu de la foule, ils répondirent Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des anciens prophètes. On voit bien que, quels que soient les personnages, Jean-Baptiste, Élie ou un prophète, c'est d'abord comme prophète que Jésus a été perçu par les foules. Oui, parce que les trois réponses, même si ce n'est pas les mêmes personnages, mais ce sont tous les trois des prophètes. Jésus est d'abord perçu comme le prophète. Ça, c'est très important, parce que vous savez que l'attente messianique, à l'époque du Christ, se porte certes sur un messie roi, mais on oublie souvent que il n'y a pas que les rois qui sont messies dans l'Ancien Testament. Il y a également les prêtres, et il est clair que l'attente messianique se porte aussi sur un prêtre à cette époque qui offrirait le pardon définitif des péchés, conformément à la prophétie de Daniel, prononcée 500 ans plus tôt, mais également sur un prophète, parce que les prophètes aussi sont ouin quelques-uns. Il y a quelques prophètes ouin dans l'Ancien Testament, quelques prophètes messies. Vous savez, c'est de là d'ailleurs que vient pour nous la tripartition baptismale, hein. Le baptême fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois, parce que l'onction baptismale, en quelque sorte, concentre les trois. C'est de là que ça vient, vous voyez. Sachant d'ailleurs que les prêtres, les prophètes et les rois, enfin, ou les sages, c'est les trois grandes sources de la révélation vétérotestamentaire. Le Pentateuque étant l'œuvre des prêtres, les prophètes étant l'œuvre des prophètes, et les écrits sapientiaux étant l'œuvre des sages, ou dire du milieu qui entoure les rois. En fait, c'est les trois élites lettrées de l'Israël ancien, les prêtres, les prophètes et les rois. Donc, de fait, l'espérance messianique se porte sur une figure idéale dans chacune de ces catégories, si vous voulez. Et du coup, cette attente du prophète, ça, elle est capitale, elle est particulièrement intéressante pour nous, parce qu'elle nous montre que l'espérance juive à l'heure de Jésus était, en tout cas dans sa dimension la plus pure, une attente exclusivement religieuse. Et pas d'abord politique, ou sociologique, ou nationaliste, ou que sais-je encore. L'attente messianique du peuple d'Israël à l'époque du Christ est d'abord une attente religieuse, c'est-à-dire un dévoilement ultime de ce que Dieu a à nous dire et que nous nous languissons de savoir. Et pour cela, eh bien, ce que l'on attend, c'est un prophète. Et vous avez dans le Deutéronome, un texte extraordinaire, Deutéronome 18, chapitre 18, versets 15 et suivants, c'est Moïse qui parle. « Le Seigneur ton Dieu suscitera pour toi du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, que vous écouterez. » Le Seigneur me dit, ils ont bien parlé, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si un homme n'écoute pas mes paroles que ce prophète aura prononcées en mon nom, alors c'est moi-même qui en demanderai compte à cet homme. Alors, oui, ça tient, quand vous regardez Moïse dans la tradition juive, c'est un personnage immense. Alors le fait que la Torah contiennent la promesse d'un prophète semblable à Moïse, c'est une affirmation gigantesque, gigantesque. Et du coup, qui chauffait à blanc l'espérance messianique à l'époque du Christ, au moins autant que l'attente d'un nouveau David ou d'un prêtre messie. Et de fait, nous avons des traces que Jésus a été perçu comme ce prophète-là. Surtout chez saint Jean, qui est d'ailleurs de tous les évangiles, celui qui est le plus proche du Deutéronome. Encore que. Saint Matthieu aussi, il est beaucoup. Vous avez en Jean 6, 14, par exemple, à la vue du signe qu'il venait de faire, la multiplication des pains, les gens disaient, c'est vraiment lui, le prophète, qui doit venir dans le monde. Or, là, c'est évident que la référence est à Deutéronome 18, puisque Moïse s'est signalé par le grand signe de la manne. qui est descendu du ciel. Et d'ailleurs, Jésus va leur dire, le pain que je vous donnerai n'est pas comme la manne que vos pères ont mangée et leurs corps ont jonché le désert. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Bon. Et donc, voilà le signe que Jésus a accompli. Et c'est là-dessus qu'on reconnaît en Jésus le prophète semblable à Moïse. Alors, vous voyez, c'est tout à fait déterminant aussi pour comprendre que le discours sur le pain de vie, du coup, ne désigne pas d'abord l'Eucharistie, hein, il peut le désigner dans un second temps, mais au sens propre, le pain de vie, cette chair que Jésus donne, cette chair qui est lui-même, en quelque sorte, c'est sa parole. Et là, nous avons la preuve, une des preuves les plus décisives, que Jésus s'identifie à cette parole reçue, envoyée par Dieu. Vous savez que dans la promesse de Deutéronome, Dieu dit « Je mettrai mes paroles dans sa bouche ». Et de fait, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Vous voyez, par exemple, Jean chapitre 12. « Ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que j'avais à dire et à faire connaître. » Et aussi, vous avez vu que dans le Deutéronome, on disait que si quelqu'un n'accueille pas les paroles du prophète que je lui ai envoyées, il devra en rendre compte. Eh bien, en Jean 12, 47, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles, à son juge, la parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Exactement, là, pratiquement, hein, c'est une sorte de variation sur la promesse du Deutéronome. Alors, je vais vous montrer, donc, je vais terminer par deux exemples. D'une part, vous avez l'évangile des pèlerins d'Emmaüs, qui est lui aussi tellement typique de la manière de faire de Jésus. Regardez ça. Donc Jésus leur toujours les questions, évidemment, il leur apparaît sur le chemin. « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, dit « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. » Ironie suprême, hein, bien sûr. « Quoi donc ?» leur dit-il. Je ne sais pas avec quel ton Jésus a dit ce « quoi donc ?» Mais c'est vrai que ça devait être... J'aurais bien aimé savoir quelle était l'intonation. Vous savez, c'est comme dans les exercices de style de Queneau, là. On pourra dire une même chose de tas de manières différentes. Bon, eh bien, comment est-ce qu'il a dit ce « quoi donc ?» Peut-être qu'on aurait pouffé de rire si on le savait. « Ce qui concerne Jésus le Nazarénien, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole... » Vous l'avez vu, hein, c'est QFD, vous l'avez là, prophète, prophète, puissant en œuvre et en parole, en signes et en mots. C'est comme ça qu'on synthétise. Comment nos grands prêtres l'ont livré, etc. Voilà le troisième jour que c'est arrivé. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés. S'étant rendues de grand matin au tombeau, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles avaient même eu la vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses, tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Mais, je ne sais pas, si vous regardez, si vous lisez ce récit, que ce compte-rendu que fait des gens qui n'ont pas la foi, en fait, il y a tout dedans, déjà. Tout y est. C'est-à-dire que vous avez Jésus de Nazareth, prophète puissant en œuvre et en parole, mort sur la croix, mais aussi, ce qui est intéressant, il ne s'arrête pas là. Quelques femmes nous ont stupéfiés en nous disant qu'elles ont eu des visions d'anges qui proclament qu'il est vivant. Vous avez vu l'ironie suprême de cette formule. Parce que des gens qui ne croient pas, néanmoins, sont tellement happés par l'événement qu'ils le disent même s'ils n'y croient pas. Mais pourtant, c'est comme si la chose et la parole de l'ange était tellement prégnante que du coup, si on veut faire un compte-rendu objectif de ce qui s'est passé, on est obligé de tenir compte de la proclamation faite par les femmes au matin de Pâques. Donc en fait, ce que vous avez dans un récit comme celui-là, magnifique, c'est que par ces questions, par la manière dont Jésus s'adresse aux autres, en fait, il fait se lever de l'intérieur même de ceux auxquels il s'adresse, ce qui va devenir la confession de la foi. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Parce que, évidemment, il les invite à puiser dans leur mémoire. Vous voyez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que leur mémoire est déjà, en quelque sorte, saturée par ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Eh bien, c'est sur la base de cette mémoire devenue pleinement consciente d'elle-même, en quelque sorte, que va pouvoir se greffer la confession de foi plénière. Tout y est, il ne manque plus que leur adhésion personnelle et subjective à ce qu'ils viennent de dire. Eh bien, là, vous avez vu, c'est exactement la manière de faire du Seigneur. Par les questions, en fait, c'est comme dit c'est le serviteur souffrant, il n'éteindra pas la mèche qui fume, il ne brisera pas le roseau froissé. C'est-à-dire que s'il reste quelque chose, il va encore souffler sur les braises. Et c'est la mémoire de ce qu'il a fait, dont ils ont été les témoins, qui sera la base pour aller plus loin et arriver jusqu'à la confession de foi plénière. Et de fait, c'est vrai que ce récit des pèlerins d'Emmaüs est intéressant parce que nous avons déjà une petite forme de la proclamation de la foi chez des personnes qui pourtant ne la partagent pas à ce moment-là. C'est tout à fait intéressant. Ce que signifie un exemple comme celui-là, c'est qu'en fait, comment est-ce que Jésus a enseigné ? C'est qu'il a, en quelque sorte, à partir de ce que les gens savaient, il a fait progresser jusqu'à ce qu'il ne savait pas. Ça explique aussi, vous voyez, par exemple, pourquoi les passages tout à fait extraordinaires où Jésus, pour parler de lui, cite les Écritures anciennes. Parce que les Écritures lui permettent de parler de lui à la troisième personne, donc sans avoir à dire « je », en quelque sorte, sans avoir à parler en son nom propre, parce que les Écritures parlent pour lui. C'est aussi un des aspects vraiment absolument fascinants de la manière dont Jésus enseigne et nous dit ce qu'il a à nous dire. C'est qu'en fait, il laisse le témoignage ancien parler pour lui. Les Écritures d'Israël, la mémoire de ce que les apôtres ont déjà vu et entendu. Et c'est en fait c'est la croissance homogène de ces petites graines qui ont été semées qui va aboutir à la confession de la foi. Vous savez que, je termine là-dessus, la parabole du semeur, c'est à ça que je voulais en venir, la parabole du semeur n'est pas une métaphore prise au monde agricole. J'ai rien contre le monde agricole, rien du tout, rassurez-vous. Simplement, la parabole du semeur n'est pas d'abord un exemple emprunté à quelque chose qui se passe autour de nous, le semeur qui sort pour semer. Parce que dans la Bible, la bonne terre, c'est le bon et fertile pays que Dieu a donné à Israël pour y faire croître tout ce qu'il pourrait. Bon. Et en particulier, la semence, c'est la parole. Parce que Israël, dans le bon pays, dans la bonne terre, ayant reçu la parole qui est la loi, va pouvoir fructifier, grandir, multiplier les fruits de vertu, le culte, la famille, etc. Ce qui fait que la parabole du semeur, en fait, ne nous parle pas d'abord de graines semées, elle nous parle de la parole qui est plantée dans la bonne terre, c'est-à-dire le pays de l'Alliance, et la parabole nous dit exactement ce qui se passe lorsque nous entendons la parole de Jésus. En fait, la parabole du semeur, elle ne parle pas d'autre chose que de nous en train de lire la parabole du semeur, d'une certaine manière. Voyez ? La parabole du semeur, en fait, quand vous la lisez, vous êtes la bonne terre dans laquelle la parole de Jésus est semée et dans laquelle elle va produire, dès lors que vous aurez compris que c'est ça, 30, 60, 100 pour 1. Ça, c'est une propriété absolument unique de la parole du Christ, sa faculté à travers la médiation de sa parole consignée et transmise, nous parler à nous directement. Dites-vous ça la prochaine fois que vous l'entendez, cette parabole. Que quand vous entendez cette parabole, il n'y a plus aucune médiation entre Jésus et vous. Parce que ce que dit la parabole, c'est exactement ce qui est en train de se produire en vous qui la recevez et qui, du coup, faites grandir les fruits autour de vous. Ça, je ne connais pas de phénomène littéraire ou linguistique semblable à celui-là. C'est une propriété de la parole du Christ de s'adresser à nous et d'y faire grandir les fruits de l'alliance. Oui, voilà, ça c'est un... voilà les éléments, si vous voulez, dont je peux dire qu'ils sont la base scientifique, épistémologique de ce dictionnaire. c'est à partir de ça qu'il est élaboré, en quelque sorte, de ces convictions-là. Vous voyez que ça suppose évidemment une remise en contexte hébraïque particulièrement vive, parce que c'est, au fond, on voit bien que c'est la théologie juive de la parole que Jésus a en quelque sorte porté à son point d'incandescence. Et la notion d'accomplissement des Écritures, c'est-à-dire que tant que les Écritures ne sont pas arrivées jusqu'au bout de leur signification, elles portent encore la possibilité d'une expansion et d'une croissance. Et voilà, tant que le sens ultime n'a pas été atteint, eh bien, elles sont encore grosses d'une information de la réalité plus profonde et plus semblable à ce que Dieu veut en faire. Ben ça, c'est exactement ce qui caractérise le degré prophétique de la parole de Jésus. C'est pour ça qu'il était attendu par les siens. Et c'est ça qui fait qu'en dépit de toutes les difficultés, des reniements, etc., il a quand même trouvé dans son peuple un écho considérable. En fait, on a l'impression que c'est un phénomène marginal, mais pas du tout. C'est un phénomène qui a véritablement bouleversé Israël de fond en comble, bien sûr. Et nous, à sa suite. Voilà. Eh bien, écoutez, je m'arrête là. Et je vous remercie de votre écoute. Merci à vous.
Le dictionnaire Jésus ou la méthode de Jésus pour faire comprendre ce qu'il a à nous dire. Vous venez d'entendre la conférence du frère Renaud Silly, dominicain, docteur en théologie, collaborateur de l'École biblique et archéologique de Jérusalem. Conférence enregistrée le 24 septembre 2021 à la maison diocésaine de Bayonne, lors d'une soirée proposée par l'antenne de théologie des pays de l'Adour, l'ATPA.